Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 11 octobre 2016. Au sommaire ce soir,
la chancelière allemande Angela Merkel poursuit sa tournée africaine aujourd'hui en Éthiopie.
Le ministre sud-africain des Finances est poursuivi par la justice de son pays pour fraude.
Au Nigeria, plusieurs juges accusés de corruption par le gouvernement Buhari ont été libérés.
Dossier Syrie, Vladimir Poutine annule sa visite en France où il devait aborder le sujet avec son homologue François Hollande.
Ici aux États-Unis, Donald Trump ne décolère pas contre ses pairs républicains qui l'accusent de torpiller sa campagne pour la présidentielle de novembre.
L'économie et les sports, juste après le journal.
Mais disons tout d'abord que l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté le projet de constitution. Idriss Fall a joint le député Alphonse Soro.
Nous venons de clôturer la séance plénière sur 250 députés siégeants, 239 députés ont voté pour l'adoption de la Constitution. 8 députés ont voté contre et 2 députés se sont abstenus. Nous avons donc approuvé la Constitution de la Troisième République qui désormais ne sera plus un avant-projet de loi, mais un projet de Constitution qui sera soumis au vote de la population ivoirienne.
Est-ce qu'on a une idée quand est-ce que le référendum aura lieu?
Probablement dans les semaines qui suivent, puisque toutes les étapes institutionnelles ont été franchies, il ne reste plus que à poser la question au peuple souverain de Côte d'Ivoire pour que celui-ci se prononce sur la Constitution.
Une tentative d'attentat suicide a échoué à Tombouctou, au Mali. Le kamikaze aurait été tué la nuit passée. Des versions contradictoires circulent concernant les circonstances de son décès. Il aurait soit provoqué sa propre mort en activant la charge d'explosifs, ou aurait été abattu par des casques bleus suédois avant d'exploser.
Le premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, a affirmé aujourd'hui vouloir réformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée en réponse au mouvement de contestation qui secoue son pays. Une annonce qui intervient lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Jacques Aristide.
Madame Merkel, qui termine une tournée africaine de 3 jours, a décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour, d'après l'AFP, ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique. Mais elle était aux côtés du chef du gouvernement éthiopien lors d'une conférence de presse conjointe à Addis Abeba. Pour la chancelière allemande, une démocratie dynamique a besoin d'une opposition et de médias libres. Les gens veulent exprimer leur point de vue, ils veulent avoir leur mot à dire, a déclaré Madame Merkel. Un appel qui semble avoir été entendu par le Premier ministre Desalegn, qui a assuré que son gouvernement réformerait le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement. L'Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans et selon des ONG, la répression a fait plus de 500 morts.
Au Burundi, le gouvernement suspend toute forme de collaboration avec le bureau du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Bujumbura l'accuse de complicité dans l'élaboration d'un rapport accablant pour le pouvoir. Déjà hier, Bujumbura déclarait persona non grata 3 experts des droits de l'homme de l'ONU qui avaient accusé le gouvernement burundais de violations graves des droits de l'homme et mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité.
Vers une indemnisation de victimes de crimes de guerre en République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale tient ce mardi et jeudi pour la première fois des audiences publiques sur d'éventuelles compensations. À cette occasion, les experts ont estimé que les anciens enfants soldats restent stigmatisés, éprouvent des sentiments suicidaires et vivent dans une peur constante.
Gédéon Kiungu s'est rendu en République démocratique du Congo. Les autorités de l'ex-province du Katanga ont présenté à la population le chef de guerre de la milice Bakata Katanga, aujourd'hui devant le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. C'est ce qu'a constaté le correspondant de VOA Afrique sur place. Condamné à mort pour crime de guerre, le chef militaire de cette milice qui sème la terreur terreur hein, dans cette province s'est rendu aux autorités congolaises accompagné d'une centaine de ses miliciens.
Et en Guinée aussi, on parle d'indemniser les victimes des violences électorales de 2013. Les forces politiques se sont entendues au terme d'un dialogue national la nuit passée, date anniversaire de la réélection du président Alpha Condé. C'est ce qu'ont appris des participants à l'AFP.
Le barreau nigérian confirme la libération des juges arrêtés ce week-end dans le cadre d'une enquête sur la corruption. Les précisions de Nani Talani.
Le président du barreau nigérian, Aboubakar Mahmoud, a fait savoir que les juges interpellés ont été libérés sous caution dimanche. Toutefois, il n'a pas précisé leur nombre. Une source au sein de l'Agence nigériane de sécurité nationale a indiqué que 7 magistrats sont concernés et qu'ils se sont présentés au siège de l'agence lundi. Il dit ignorer la date à laquelle ils seront inculpés, ajoutant que leurs dossiers ont été confiés au procureur général. Les juges mis en cause siègent à la Cour suprême nigériane, à la Cour d'appel et à la Haute Cour. L'Agence de sécurité nationale, qui les a interpellés ce week-end, dit avoir saisi 800 000 dollars pendant les perquisitions. La décision d'arrêter les juges a provoqué un tollé dans le pays. Les critiques accusent le président Muhammadu Buhari de mener une chasse aux sorcières sous couvert de la lutte contre la corruption, ce que réfute le porte-parole de la présidence.
En Afrique du Sud, le ministre des Finances, dans la ligne de mire de la justice, il est poursuivi pour fraude. Eric Manirakiza.
Le procureur général Shaun Abrahams a annoncé aujourd'hui dans une conférence de presse l'ouverture de l'enquête contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Il est accusé notamment de fraude avec 2 autres personnes lorsqu'il dirigeait les services du fisc de 1999 à 2009. Monsieur Pravin aurait permis le départ à la retraite d'un de ses subordonnés dans des conditions frauduleuses. L'annonce de ses poursuites contre le ministre a aussitôt bouleversé des marchés financiers. Le rand, la monnaie sud-africaine, a immédiatement perdu plus de 3% de sa valeur face au dollar. Monsieur Pravin a joui d'une grande confiance des milieux économiques du pays. Ceci lui a valu son retour à la tête des finances en décembre 2015, un poste qu'il avait occupé dès 2009 et perdu en 2014. Chantre de la lutte contre la corruption et souvent opposé au président Jacob Zuma, le ministre Pravin est visé par une autre enquête, mais qui n'a pas encore abouti à des poursuites.
En Somalie, des centaines de soldats éthiopiens opérant dans le cadre de la force de l'Union africaine, AMISOM, se sont retirés d'El Ali. Cette ville a été immédiatement reprise par les militants islamistes Shebab.
Le gouvernement du Soudan du Sud doit prendre des mesures concrètes pour permettre le déploiement de la force mandatée par les Nations Unies pour protéger ce pays meurtri par une guerre civile dévastatrice. C'est ce qu'a déclaré Ban Ki-moon au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre au Conseil lundi soir, le chef de l'ONU a expliqué que le gouvernement avait encore des réserves sur la composition de cette force de 4000 membres et sur les zones de déploiement. Les autorités sud-soudanaises ont affirmé qu'elles étaient prêtes à accepter cette nouvelle force, mais ces engagements doivent se traduire par des actions concrètes sur le terrain, a réclamé Ban Ki-moon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les tensions diplomatiques entre Paris et Moscou liées à la guerre en Syrie ont culminé aujourd'hui avec l'annulation par Vladimir Poutine d'une visite prévue de longue date à Paris en raison des conditions posées par la France. De son côté, nous dit Salwa Jafari, l'Élysée a fait savoir qu'une réunion de travail avec le président russe était possible sur la Syrie à l'exclusion de tout autre événement pour le président français.
Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place. Sinon c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix,
c'était le président Hollande réagissant à la décision de Vladimir Poutine d'annuler son déplacement. Ce désaccord s'est cristallisé quand la Russie a opposé son veto samedi soir aux Nations Unies à une résolution française appelant à la cessation des bombardements sur Alep et présentait un texte différent. La résolution défendue par l'Élysée appelle à la fin des raids du régime syrien et de son allié russe dans la deuxième ville de Syrie. La contre-proposition russe réclamait la cessation des hostilités mais sans évoquer ces bombardements qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'offensive contre Alep le 22 septembre.
A signalé aussi cette sortie aujourd'hui du ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson contre Moscou. Il a appelé à manifester devant l'ambassade de Russie à Londres pour protester contre le rôle de la Russie en Syrie.
La France continue d'aider Haïti en réponse au passage de l'ouragan Matthew la semaine dernière. Deux stations de production d'eau potable ont été livrées dans le premier cargo français d'aide humanitaire qui a atterri ce matin à Port-au-Prince avec 69 tonnes de fret humanitaire, dont des médicaments et des kits contre le choléra. Les autorités haïtiennes choisiront les zones d'affectation de ces stations d'une capacité de production de 250 m3 d'eau par jour. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lennon.
Au Mali, les bureaux du producteur d'or Randgold ont été fermés à Bamako à cause d'un différend fiscal de plus de 200 millions de dollars. Le groupe sud-africain estime que les autorités maliennes ont la main trop lourde en matière d'impôts. En 2015, le bénéfice net de Randgold s'établit à 189 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars. L'Égypte a lancé des appels d'offres pour son approvisionnement en pétrole après la suspension par le géant pétrolier saoudien Aramco de la livraison de 700 000 tonnes de produits pétroliers. L'Arabie saoudite avait passé un accord en avril avec l'Égypte pour la fourniture sur 5 ans de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars. De plus en plus d'éditeurs européens sont en colère contre Facebook et Google. Les mastodontes du web continuent de capturer une part toujours plus importante des revenus publicitaires numériques. Google et Facebook devraient s'arroger plus de la moitié des revenus de la publicité numérique en Grande-Bretagne cette année et jusqu'à 58% aux États-Unis.
Chaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 ce mardi sur la planète football.
Oui, à suivre en Europe, le champion du monde allemand qui accueille l'Irlande du Nord, la Norvège face à Saint-Marin, la Slovénie contre l'Angleterre et l'Écosse qui se déplace en Slovaquie.
Les premiers résultats de la zone Asie.
La Chine qui chute en Ouzbékistan 2-0, une troisième défaite lors de ce troisième tour des qualifications pour le Mondial 2018. L'Irak balait la Thaïlande à la peine depuis le début du troisième tour des qualifications. L'Irak s'est offert une belle victoire. Les Irakiens se sont imposés 4-0 grâce à un quadruplé de Mohamed Abdulrahim à la 7e, 25e, 87e et dans les arrêts de jeu. Le Japon freine l'Australie, match nul, un but partout pour le leader du groupe B lors de ses qualifications.
Et la nuit prochaine, le Chili, en plein doute, espère se relancer.
Le double vainqueur de la Copa América est en difficulté lors de ses éliminatoires, occupant la 7e place dans la zone Amérique du Sud. Après 9 journées sur 18, l'Uruguay, le Brésil, l'Équateur, la Colombie et l'Argentine se partagent les places qualificatives et celles du play-off.
Et tennis, master de Shanghai.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui n'était plus apparu sur un court depuis sa défaite en finale de l'US Open, a réussi sa rentrée en se qualifiant pour les 8e de finale. Le Serbe a battu l'Italien Fabio Fognini, 50e joueur mondial. Le score, 6-3, 6-3. Quant au numéro 1 français, Gaël Monfils, il s'est qualifié pour les 8e de finale en battant le Sud-Africain Kevin Anderson. Le score, 7-6, 6-3.
Merci Nicolas.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans quelques instants, notre partie magazine présidentielle américaine, nous en parlerons. La campagne de Donald Trump au bord de l'implosion, le candidat républicain a exprimé sa déception et sa colère ce mardi, sur Twitter notamment. Après l'annonce publique du président de la Chambre basse, la Chambre des députés, Paul Ryan, disant qu'il ne battrait plus campagne pour Trump et qu'il ne défendrait pas Donald Trump. M. Trump a accusé ses pairs républicains de manquer de loyauté et de torpiller sa campagne. Il faut dire aussi que le porte-étendard républicain est dans la tourmente depuis la publication vendredi d'une vidéo datant de l'année 2005 où il tient des propos pour le moins dégradants à l'égard des femmes. Et bien sûr, nous y reviendrons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour et la première escale, c'est la République démocratique du Congo.
Le porte-parole du gouvernement de la RDC, Lambert Mende, a confirmé l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, Bruno Tshibala. Il a été arrêté pour être interrogé pour son rôle dans les manifestations de septembre qui ont fait de nombreux morts. Le secrétaire général de l'UDPS a promis des manifestations pour mercredi s'il n'était pas libéré aujourd'hui. Nathalie Barge a joint le chef de mission adjoint à la présidence de l'UDPS, Rubens Mikindo.
Bruno Tshibala n'est pas encore libéré, mais nous devons croire que dans les 48 heures ou 24 heures, il pourra être libéré parce que pour nous, c'est inacceptable parce que nous considérons d'ailleurs son arrestation comme étant une provocation. Et nous devons croire que le pouvoir de Kabila va comprendre qu'il y a nécessité vraiment de libérer M. Bruno Tshibala. Notre secrétaire général s'est déjà prononcé là-dessus. Dans le cas où 48 heures après, c'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, il n'est pas libéré, bien, l'IDPS va mener toute une série d'actions pour arriver jusqu'à sa libération totale. Il y a beaucoup d'actions pacifiques que nous devons mener sur le terrain afin que nous puissions obtenir sa libération. Je vous dis tout de suite que nous sommes en train d'envisager même, pourquoi pas, tous les cadres du parti et même tous les membres du parti ici à Kinshasa que nous puissions aller vers le parquet général pour que nous soyons tous arrêtés. Parce que c'est inacceptable qu'on arrête quelqu'un arbitrairement comme ça, alors que nous, nous avions présenté une plainte et nous avons identifié déjà qui était à la base des troubles passés ici à Kinshasa du 19 au 20. Passer sous silence cette plainte et pour commencer à ramasser les gens un à un. Nous estimons à un certain moment, autant nous emmener tous à la prison et peut-être ça pourra faire l'affaire du pouvoir en place.
Bruno Tshibala a été arrêté juste avant de prendre l'avion pour Bruxelles. Est-ce que vous pensez que cette arrestation était donc pour l'empêcher de quitter le territoire ?
Oui, ben justement, parce que normalement, Bruno Tshibala, il ne voulait pas voyager dans une mission officielle du parti politique parce qu'il devait aller pour les soins médicaux. Et ça nous a tous étonnés de voir qu'il a été arrêté. C'est pourquoi nous considérons cette arrestation comme étant une arrestation arbitraire. C'est pas sur base, c'est pas moi d'une liste, c'est parce que nous estimons que c'est de l'intimidation tout simplement à pouvoir faire pression sur l'UDPS et les partis de rassemblement. Et il a été tout simplement arrêté. Et je vous dis que nous attendons que les coups de sifflet du secrétaire général, tel qu'il l'a dit d'une manière solennelle, pour que nous puissions passer à des actions. Et évidemment, ça sera bien entendu des actions tout à fait pacifiques. Et je vous dis d'abord, d'emblée, parmi les actions pacifiques, nous envisageons aller tous, si demain, par exemple, il n'est pas libéré, nous envisageons nous tous, cadres du parti, aller nous constituer comme prisonniers, afin que le pouvoir puisse trouver ses forces.
Voilà, c'était Rubens Mikindo, président de l'UDPS Nord Kivu et chef de mission adjoint à la présidence de ce parti.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé aujourd'hui, mardi, les gouvernements à taxer les boissons sucrées, mesure qui viserait à combattre l'obésité dans le monde où un adulte sur trois est en surpoids. Pour l'OMS, cette taxation va conduire à une réduction de la consommation de ces produits. Alors pour plus d'explications, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur du département nutrition à l'OMS, Francesco Branca.
Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'obésité. Ça, c'est un problème très important. Maintenant, on a plus de 600 millions d'adultes qui ont l'obésité. On a 42 millions d'enfants sous de 5 ans, il y a beaucoup de problèmes de diabète, plus de 400 millions de personnes qui ont le diabète. C'est la mauvaise diète, c'est la première cause de mortalité pour des maladies transmissibles.
Est-ce que c'est le cas également en Afrique?
Bon, la consommation de boissons sucrées plus élevées, maintenant, c'est en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Mais en Afrique, on a vu qu'il y a une croissance très rapide dans l'Afrique du Nord, particulièrement la consommation c'est plus haut que dans la moyenne globale. Dans l'Afrique du Sud, donc l'Afrique au sud des Sahara, c'est plus bas que la moyenne mondiale, mais il croît très rapidement. Et ça, c'est un problème parce qu'on a des systèmes de production, de consommation des aliments qui changent très rapidement, particulièrement des environs urbains. Et les enfants, ils consomment très facilement des boissons sucrées. Et la distribution très capillaire, même dans de petits pays en Afrique. Donc, il faut faire quelque chose tout de suite avant que dans l'Afrique, on sera dans la même situation que dans l'Amérique latine. Du sûr. Les problèmes de l'obésité sont là aussi. Le problème du diabète est aussi présent dans l'Afrique. Donc, il faut faire quelque chose pour éviter de se trouver dans des situations critiques de santé publique comme dans l'Amérique du Nord. Donc, en Afrique, on a un grand problème de double fardeau de la malnutrition. Donc, on a en même temps la malnutrition traditionnelle. Donc, on n'a pas beaucoup de poids. On a pas suffisant d'énergie, de micronutriments. En même temps, on a un problème de l'obésité. Donc, vous êtes dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, on a 40% de femmes qui sont obèses et on a presque 15% de femmes qui ont des problèmes de malnutrition. Mais il faut faire quelque chose pour résoudre les deux types de problèmes en même temps.
Voilà, c'était Francesco Branca, directeur du département nutrition de l'Organisation mondiale de la santé.
Présidentielle américaine 2016. Le parti républicain en ébullition à 4 semaines du scrutin. Le porte-étendard du parti, Donald J. Trump, s'insurge contre le président de la Chambre des députés, Paul Ryan, qui a dit qu'il ne battrait pas campagne pour lui. Timothée Donangmaï, de quoi s'agit-il?
Alors, Gabi, lors d'une conférence téléphonique lundi, Paul Ryan a informé les législateurs républicains qu'il se concentrera désormais sur les efforts visant à maintenir la majorité républicaine à la Chambre. Pas question de battre campagne pour le candidat républicain Donald Trump, a-t-il fait savoir. Une décision qui a suscité le courroux de l'intéressé. Dans un premier message ce mardi sur Twitter, Trump a dit que sa campagne pour la Maison-Blanche est rendue difficile par le manque de soutien du président républicain de la Chambre des représentants. Dans un autre message, toujours sur Twitter, il a qualifié Ryan de très faible et inefficace. Selon le candidat républicain à la Maison-Blanche, Paul Ryan a eu une mauvaise conférence téléphonique avec ses membres qui se sont déchaînés contre sa duplicité. Certains républicains n'ont pas apprécié le revirement du président de la Chambre des représentants qui, faut-il le préciser, Gabi, n'a pas pour autant retiré son soutien à la candidature de Donald Trump, preuve de la complexité de cette équation que les républicains doivent résoudre en cette année électorale.
Et la sortie de Paul Ryan contre Donald Trump aggrave les fissures qu'on a observées ces derniers temps au sein du Parti républicain.
Le malaise était déjà perceptible, Gabi, dès l'annonce de la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche et, selon Associated Press, les leaders républicains avaient espéré préserver l'unité du parti, tout au moins jusqu'aux élections de novembre, un espoir déçu dans la mesure où, ces récents jours, Gabi, 40 républicains du Sénat et du Congrès ont retiré leur soutien à Donald Trump. Ceux des républicains menant campagne pour leur propre réélection redoutent que les propos dégradants de Donald Trump au sujet des femmes dans une vidéo datant de 2005 ne finissent par leur coûter leur siège en novembre. Ils devront cependant compter avec Donald Trump, qui se dit maintenant libre de toute contrainte dans sa lutte pour accéder à la Maison-Blanche. Dans le camp démocrate, la candidate Hillary Clinton a elle aussi quelques soucis, notamment une controverse déclenchée par la publication par Wikileaks d'emails portant sur les relations d'affaires de son mari, l'ancien président Bill Clinton, et ses propres ambitions présidentielles. Ces emails ont été piratés du compte de John Podesta, le président de l'équipe de campagne de Mme Clinton. Par ailleurs, Gabi, l'équipe de Trump a lancé un nouveau spot télévisé s'interrogeant sur l'état de santé de Mme Clinton après le malaise dont elle a été victime lors de la commémoration des attentats du 11 septembre.
Quel en sera l'effet? Est-ce que ce n'est pas trop tard? On ne sait pas, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Comme vous l'avez dit, Thibaut Douangomaï, le scrutin, c'est le 8 novembre, c'est dans quelques semaines.
Et Gabi, comme on aime le dire ici aux États-Unis, on n'est jamais à l'abri d'une surprise d'octobre.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Je vais te mettre sur la piste, Morgane.
Oui, pour écouter ce titre, Douceur de Billy Abel.
On met fin à cette édition. La production a été assurée ce soir par Lionel Gaïma. Nous saluons Wagner Robert à la console. Présentation Morgane Guiriac et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On continue la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.